le magazine des Nations Unies.
Bonjour à tous, c'est l'heure de votre magazine sur les activités de la mission et des agences du système des Nations Unies en RDC. Tout de suite, les titres. La MONUSCO annonce son appui à l'organisation des élections dans le pays. Le processus devrait démarrer avec la tenue des municipales et des locales. Mais le représentant spécial du secrétaire général de l'ONU en RDC précise que la mission ne se substituera pas à la CENI et encore moins aux instances judiciaires du pays. C'est notre actualité de la semaine. Le paludisme a tué 30 000 personnes en RDC l'année dernière. 11 millions de Congolais ont souffert de cette maladie durant la même période. C'est un problème de santé publique, affirme le Programme national de lutte contre le paludisme. À l'occasion de la célébration de la journée mondiale de lutte contre cette maladie, un spécialiste de l'UNICEF décrypte les stratégies de lutte et la thérapie en vigueur en RDC. Tout en s'occupant des réfugiés centrafricains sur le territoire congolais, le HCR organise le rapatriement volontaire des réfugiés congolais vivant en RCA depuis 2 semaines. 3 000 d'entre eux ont déjà regagné le pays. L'invité de ce magazine, Céline Schmitt, porte-parole à la représentation régionale du HCR en RDC, nous donne les détails de cette opération.
Magazine des Nations Unies, actualité de la semaine.
Encore une fois, bonjour. Le représentant spécial du secrétaire général de Nations Unies en RDC, Martin Kobler, a réitéré le soutien de la MONUSCO à l'organisation des élections en RDC. Il en a parlé mercredi dernier au cours de la conférence hebdomadaire des Nations Unies à Kinshasa. Le chef de la MONUSCO a précisé que l'aide à la Commission électorale nationale indépendante dans l'organisation des élections pourrait porter sur 3 piliers. Les détails avec Jean-Pierre Elali Coco.
Premier pilier, c'est la mission des bons offices. Et d'emblée, M. Kobler se presse d'apporter une précision. Il n'est pas question pour la MONUSCO de se substituer à la CENI et aux institutions judiciaires de la République démocratique du Congo.
La MONUSCO ne va pas substituer personne et rien. C'est la responsabilité de la CENI. C'est une commission indépendante pour organiser les élections, pour introduire les lois. Maintenant, on a la discussion sur les lois électorales.
Et en quoi consiste la mission du bon office?
La première chose, c'est d'avoir de bonnes relations avec tous les partis, de la majorité présidentielle, aussi de l'opposition. Et ça s'appelle bon office. Si on a des problèmes ici, nous, si les partis le désirent, les partis nous demandent, alors on peut discuter ces problèmes. Nous avons nos principes ici. C'est la constitutionnalité, la transparence, ce sont les principes électoraux. Nous sommes toujours prêts à discuter si on a des problèmes, des divergences d'opinion entre opposition, majorité, entre la CENI et l'opposition et tout ça. C'est ce qu'on appelle « bons offices ».
Deuxième et troisième pilier de cet appui, c'est l'assistance technique et logistique.
Deuxièmement, c'est l'assistance technique. C'est très très important. Tous les interlocuteurs me disent, alors à 2011, c'était pas tellement parfait avec l'assistance technique. On a beaucoup de gens qui sont traumatisés par ce qui s'est passé dans le terrain logistique en 2011. L'assistance technique doit être faite par le PNUD, mais il faut le financer. Mais aussi ça, ce n'est pas un remplacement du gouvernement. Les élections coûtent cher. Notre participation, en ce qui concerne l'assistance technique, doit être financée. Troisième piste, c'est la logistique. C'est très difficile dans ce pays, mais on peut le résoudre. Mais, encore une fois, on prend le temps. J'étais en Irak, j'étais en Afghanistan, ce sont des pays très difficiles. En ce qui concerne la sécurité, mais aussi la logistique, ça peut marcher. Mais avec une organisation, ça prenne 7-8 mois d'organiser logistiquement de telles élections.
Le chef de la MONUSCO avait annoncé cette assistance à la CENI le 21 avril dernier au cours d'une rencontre avec l'abbé Malou Malou, président de la CENI. Pour rappel, lors des élections de 2006, puis de novembre 2011, la MONUSCO avait accompagné la Commission électorale nationale indépendante, notamment dans le déploiement des kits électoraux dans des bureaux de vote grâce à sa flotte aérienne.
Magazine des Nations Unies, décryptage.
Avec 30 000 décès, 11 millions de cas l'année dernière. Le paludisme est devenu un problème de santé publique dans le pays, selon le programme national de lutte contre le paludisme en RDC. À l'occasion de la célébration de la journée mondiale de lutte contre le paludisme le 25 avril dernier, nous recevons dans ce magazine le docteur Léonard Kouadio, spécialiste à l'UNICEF, chargé du paludisme. Il s'entretient avec Jean-Pierre Elali Coco.
Docteur Léonard Kouadio, bonjour.
Bonjour.
C'est vendredi 25 avril, c'est la journée mondiale de lutte contre le paludisme. Le paludisme constitue un problème majeur de santé publique en RDC et partout en Afrique. Cette pathologie ne fait que prendre de l'ampleur malgré les efforts fournis par le gouvernement congolais et ses partenaires comme l'UNICEF. Alors, première question docteur, quel est l'état des lieux de cette endémie en République démocratique du Congo actuellement?
En effet, comme vous le dites, le paludisme constitue un problème majeur de santé publique dans, je peux dire, toute la région tropicale. Comme vous le dites, effectivement, le paludisme constitue un fardeau pour notre pays. Le paludisme compte pour environ un tiers des motifs de consultation dans la formation sanitaire et il est la première cause de mortalité des enfants de moins de 5 ans et également est responsable d'une proportion considérable de décès chez les plus de 5 ans également. Il faut aussi dire que plus de 50% des cas de fièvre qui arrivent dans les formations sanitaires le plus souvent sont liés à cette maladie. En dehors des effets néfastes sur les enfants de moins de 5 ans, le paludisme constitue également un déterminant majeur de la mauvaise santé de la malnutrition des mères, en particulier les femmes enceintes qui peuvent avoir comme conséquence les avortements, les accouchements prématurés. Donc voici un peu ce que nous pouvons dire de la situation.
Donc la situation est dramatique.
Oui, il ne faut pas se le cacher, la situation est quand même préoccupante.
Selon les directeurs du programme national de lutte contre le paludisme PNLP, l'objectif est de réduire à 50% la mortalité due au paludisme d'ici fin 2015. Alors, quelles sont les stratégies de lutte pour atteindre cet objectif?
Il faut retenir principalement, je peux dire, deux grandes stratégies. Il y a d'abord la stratégie préventive, qui est la première grande stratégie.
Ça, c'est en amont.
Ça, c'est en amont. Il faut absolument partir de là. Et cette stratégie préventive est multisectorielle. C'est l'affaire de tous et non pas seulement du secteur santé. À partir des ménages jusqu'au pouvoir public. Et donc, nous devons tous nous mettre ensemble à ce niveau. Nous avons l'assainissement de l'environnement. Nous avons, bien entendu, l'utilisation de barrières comme la moustiquaire, comme les grilles aux fenêtres et autres pulvérisations qu'on peut faire de sorte que les moustiques n'entrent pas dans notre environnement. Et puis, bien entendu, chez la femme enceinte, il faut assurer le traitement préventif intermittent par la prise de comprimés pendant la période de grossesse.
Ça, c'est toujours dans la prévention.
Ça, c'est dans la prévention. Maintenant, quand la prévention a échoué, que la maladie s'est installée, alors il faut aller vers les structures de santé. C'est là où la santé, je peux dire, reste pratiquement le seul grand pilier. À ce niveau-là, ça dépend. Quand un malade arrive, on fait un test de diagnostic rapide pour s'assurer que c'est effectivement le paludisme, parce que tout cas de fièvre n'est pas égal à paludisme. Ensuite, lorsque la confirmation est avérée, alors on administre un traitement. Quand le malade n'est pas très alité et qu'il peut boire, on lui donne des comprimés. Quand il vomit et qu'il ne peut pas boire, alors on passe par la voie veineuse. Donc voici un peu les façons de ramasser les grandes stratégies.
Vous avez parlé de la prévention, docteur.
Oui.
À ce niveau, vous avez parlé aussi de la moustiquaire imprégnée. Oui. Mais on remarque que celle-ci a ses limites. Lorsque je suis au salon, je suis à la télévision, je n'ai pas de moustiquaire.
Pour revenir sur la moustiquaire, il faut dire que la moustiquaire a démontré à tous les niveaux la preuve de son efficacité. Donc sur ce plan, il ne faut pas en douter. Cependant, comme je l'ai dit, la lutte est multisectoriel et la prévention doit s'associer. Ça commence d'abord dans l'environnement immédiat. Il faut éliminer tout ce qui est gîte là où le moustique peut venir pour se reproduire. Ça, c'est la première des choses.
Donc c'est l'assainissement du milieu.
Voilà, l'assainissement du milieu. Il faut éliminer toutes les boîtes. Il faut désherber autour des maisons pour éviter l'humidité qui peut permettre aux moustiques de se reproduire. Ça, c'est la première des choses. Au niveau des maisons, comme je l'ai dit tantôt, il faut installer des barrières aux fenêtres et aux portes pour empêcher le moustique d'entrer dans la maison. Enfin, il faut dormir toutes les nuits sous la moustiquaire parce que le moustique pique généralement entre 21h et 5h du matin. Vous voyez, c'est là que nous sommes au lit et c'est là qu'il faut chose. À l'intérieur de la maison, pour éviter que le moustique se cache sous les habits et autres, le moustique est attiré par les odeurs de saleté et d'humidité. D'accord? Donc, il fait en sorte que, à l'intérieur de la maison, les choses soient rangées, chaque chose à sa place et là, bien aérées.
Là, vous revenez à la prévention.
Oui, c'est toujours la prévention. Alors, puisqu'on est à l'intérieur, on est à l'intérieur de la maison.
Oui. Sur le plan du traitement, l'enfant doit aller à l'hôpital ou tout ça, on doit le recevoir et le soigner. Mais, en République démocratique du Congo, la combinaison thérapeutique artésinate amodiaquine, et bien sûr la quinine n'est utilisée qu'en cas de paludisme grave, mais l'expérience a montré aussi qu'il y a de plus en plus de résistance. Docteur, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant pour bien soigner les malades?
Je pense que je ne parlerai pas de résistance, moi, aux ACT, parce que aucune étude...
ACT, c'est quoi?
Artésinate amodiaquine, c'est l'acronyme de l'artésinate amodiaquine, la molécule qui est donnée aujourd'hui pour traiter le paludisme simple. Docteur. Comme je l'ai dit, aujourd'hui, aucune étude, à ma connaissance, n'a prouvé l'inefficacité ou la résistance face à cette combinaison thérapeutique. Si vous avez des échecs thérapeutiques, c'est certainement que les patients n'observent pas effectivement les conseils qui leur sont prescrits lors de la consultation du médecin. Quand quelqu'un commence le traitement, qu'au bout de 2 jours, il arrête au lieu de couvrir jusqu'au 3e jour, ce sont des hypothèses. La cure n'est certainement pas bien suivie. Deuxièmement, comment les médicaments sont approvisionnés, ça je ne sais pas. Donc peut-être qu'il peut y avoir des faux médicaments artésinate amodiaquine, c'est possible. Et donc, c'est ça, cela qui peut expliquer qu'il y ait des cas d'échec thérapeutique. Sinon, si le traitement est bien suivi avec des molécules bien recommandées, il n'y a pas d'échec thérapeutique.
Merci beaucoup, docteur.
Nos nouvelles en bref. D'abord, le rapport du Bureau conjoint des Nations Unies pour les droits de l'homme présenté mercredi dernier à la conférence hebdomadaire des Nations Unies. Il compte 189 violations des droits de l'homme enregistrées sur toute la République démocratique du Congo en mars dernier, une légère hausse par rapport au mois de février dernier pendant lequel 183 cas de violation avaient été répertoriés. L'école primaire Sainte-Marie, située dans la commune de la Gombe, près de la cathédrale Notre-Dame du Congo, devrait être réhabilitée. La toiture, les plafonds et les murs de cette école construite en 1942 sont en délabrement. Ce sont les conclusions d'un représentant de l'UNICEF à l'occasion de la campagne d'assainissement du milieu et de propreté organisée jeudi dernier à l'intention des élèves par l'ONG Femmes dans le monde social en collaboration avec l'UNESCO. Les responsables de cette école ont salué cette initiative prise par la journaliste Marie-Agnès Safi, elle-même ancienne de cette école. Une campagne qui a permis à l'UNICEF, l'un des plus importants partenaires du pays dans le secteur éducatif, de faire le constat de l'état de délabrement de ce complexe scolaire. Plus de 48 millions de dollars américains ont été mobilisés pour l'assistance alimentaire en RDC. Dans un communiqué de presse rendu public le jeudi, le PAM a affirmé qu'il appréciait le geste des donateurs qui lui a permis de répondre aux besoins prioritaires d'1,2 million de personnes au cours des 4 derniers mois. La Banque africaine de développement, la France, l'Irlande, le Japon, l'Arabie saoudite, la Corée du Sud, la Suède, la Suisse, la Turquie et les États-Unis font partie de ses partenaires. Enfin, quelques faits saillants de la province du Katanga relevés dans le bulletin d'information humanitaire d'Ocha du mercredi. Près de 1800 incidents de protection ont été rapportés au premier trimestre de cette année dans les territoires de Kalemi, Manono, Mitwaba, Moba et Pweto. Près de 400 cas de violences sexuelles ont été rapportés pendant la même période et dans la même région. Et 5000 personnes sans abri dans les quartiers de Kankolombondo et au camp militaire Maïto dans la cité de Kalemi. Et cela après une pluie diluvienne qui s'est abattue du 19 au 20 avril dernier.
Magazine des Nations Unies, l'invité.
Je l'ai annoncé dans les titres, 3000 réfugiés congolais de la RDC ont été rapatriés par le HCR en 10 jours. L'opération se poursuivra pendant 10 autres jours afin de permettre aux autres réfugiés congolais candidats au rapatriement volontaire de regagner le pays. Céline Schmitt, chargée des relations extérieures et porte-parole à la représentation régionale du HCR en RDC, est notre invitée. Elle s'entretient avec Honoré Missenga Kalala à ce sujet.
Céline Spitt, bonjour.
Bonjour.
Quelle est la situation actuelle des réfugiés de part et d'autre de la frontière entre la RDC et la RCA par rapport, bien entendu, à la crise qui sévit dans ce pays depuis décembre 2013?
Alors, depuis fin 2012, on a enregistré l'arrivée de quelques 60 000 réfugiés centrafricains sur le territoire de la RDC. Ils vivent dans le nord du pays, donc c'est-à-dire dans la province de l'Équateur, mais certains sont également dans la province orientale. La moitié de ces réfugiés vivent dans 4 camps de réfugiés et les autres vivent avec les populations dans des familles d'accueil.
Et il y a également des réfugiés congolais de l'autre côté de la frontière.
Il y a effectivement à ce jour encore quelques 13 000 réfugiés congolais de la RDC qui se trouvent en République centrafricaine. Ils se trouvent soit en dehors des camps, soit dans 2 camps de réfugiés qui existent en République centrafricaine. Il y a le camp de Zemio, qui se trouve dans l'est du pays, et le camp de Batalimo qui se trouve dans le sud-ouest du pays. Et nous avons commencé, il y a maintenant 10 jours, le rapatriement volontaire des réfugiés congolais qui se trouvent dans le camp de réfugiés de Batalimo. Il y en a 6 000 en tout.
6 000 candidats au rapatriement volontaire.
Il y a 6 000 réfugiés qui sont dans le camp et à ce jour, déjà près de 3 000 réfugiés sont rentrés. Nous organisons des convois de retour donc de Batalimo jusqu'à Libengue, tout d'abord par route, de Batalimo jusque sur les bords de la rivière Ubangi, puis en baleinière, de Zinga. Ils traversent jusqu'à Libengue, jusqu'à un centre de transit de Batanga. Nous avons des convois de retour tous les 2 jours et environ 600 réfugiés prennent part à chaque convoi de rapatriement. Nous avons prévu de mener cette opération encore pour 10 jours, jusqu'à ce que tous les réfugiés puissent rentrer chez eux.
Alors, quelles sont les conditions d'accueil sur place?
Tout d'abord, ils sont accueillis dans un centre de transit, qui est un centre de transit de Batanga, qui se trouve juste à l'extérieur de Libengue. Ils sont accueillis, bien sûr, par les autorités locales, la communauté sur place, également les acteurs humanitaires qui apportent un appui, donc le HCR et nos ONG partenaires, et la Commission nationale pour les réfugiés. Il y a une aide d'urgence ou une première assistance qui est donnée quand les réfugiés arrivent. Il s'agit maintenant de rapatrier. Donc ils passent tout d'abord une nuit dans le centre où ils reçoivent un repas, ils reçoivent de l'assistance et ensuite nous les aidons à rentrer chez eux.
Oui, justement, j'allais demander quels sont les besoins humanitaires de ces rapatriés une fois rentrés chez eux.
Il faut tout d'abord les aider à faire face aux premières semaines du retour, en leur donnant des vivres, en leur donnant une petite aide pour qu'ils puissent se débrouiller dans l'immédiat. Et ensuite, ils ont besoin d'un appui pour se réintégrer dans ces villages qu'ils ont quittés maintenant, certains depuis 5 ans. Certains ont quitté Libengue en 2009. Ils ont fui les conflits interethniques dans la province de l'Équateur, le conflit entre les communautés Nyele et Muzaya. Certains ne sont pas venus à Libengue depuis 5 ans. Donc ce que nous faisons avec nos partenaires sur place, c'est que, en plus de l'assistance immédiate qui est accordée aux rapatriés en rentrant, nous apportons une assistance à la communauté, de manière générale, pour créer des conditions favorables à leur réintégration.
Dans la communauté d'accueil.
Dans leur village, mais qui bénéficient à la fois aux rapatriés et aux populations qui sont sur place, qui sont soit déjà rentrées ou qui n'ont jamais quitté. Et donc cette assistance concerne une assistance en matière d'infrastructures. Les infrastructures ont besoin souvent d'avoir un petit coup de pouce, donc que ce soit les écoles, que ce soit les centres de santé, les puits également pour permettre un accès à l'eau. Donc une assistance est apportée de la sorte, mais aussi une aide spécifique est apportée aux personnes qui sont dans le besoin, les personnes qui ont des difficultés particulières, c'est-à-dire que ce soit des personnes âgées ou des femmes qui sont chefs de ménage, qui élèvent seules les enfants. Et pour ces personnes-là, nous apportons un appui spécifique, notamment pour les aider à reconstruire leur maison.
En dehors des réfugiés congolais, il y a certainement d'autres Congolais qui vivaient normalement et qui certainement sont en train aussi d'être rapatriés. Comment vous gérez les deux statuts, les réfugiés et les non-réfugiés?
Il y a effectivement des citoyens congolais qui vivaient en République centrafricaine, qui étaient des migrants, qui vivaient sur place et qui ont choisi eux aussi de rentrer chez eux, de fuir le conflit, de fuir la violence en République centrafricaine. Ces personnes, quand elles arrivent en RDC, sont assistées par les autorités locales et les autorités nous ont demandé un appui particulier au HCR, notamment en matière de logistique, puisque nous avons des programmes d'assistance aux réfugiés qui rentrent. C'est-à-dire nous avons une certaine logistique en place. Nous avons des camions, on a des bâches en plastique, on peut construire rapidement des centres d'hébergement temporaires. Donc on a apporté cette aide, et notamment aux autorités au niveau de Zongo, où on a mis en place des abris temporaires pour permettre à ces citoyens congolais qui rentrent d'avoir un toit avant de pouvoir rentrer chez eux.
Donc si je comprends bien, le ACR ne gère pas directement ce genre de rapatriés.
Ce n'est pas notre mandat direct, on s'occupe des réfugiés qui rentrent, mais comme nous avons été sollicités par les autorités pour donner un appui, et puisque nous sommes sur place, nous avons apporté un appui également dans ce domaine.
Comment vous jugez la collaboration avec le gouvernement par rapport à ce processus de rapatriement des réfugiés congolais qui rentrent chez eux ?
Cette opération se fait main dans la main avec les autorités congolaises. Notre partenaire direct est la Commission nationale pour les réfugiés. Donc les mouvements de retour sont organisés conjointement avec la Commission nationale pour les réfugiés, qui joue son rôle également par rapport à l'enregistrement des rapatriés, pour qu'ils puissent être en fait enregistrés à nouveau comme des citoyens congolais qui rentrent chez eux. Mais nous travaillons également avec les autorités locales sur place, et les autorités locales participent à toutes les discussions, notamment par rapport à la réintégration, nous font part des besoins qu'il peut y avoir dans certaines communautés. Donc tout ce travail se fait en coordination avec les autorités locales et les autorités centrales via la Commission nationale pour les réfugiés.
Donc tout marche normalement par rapport à ce processus de rapatriement.
Jusqu'à présent, on peut dire effectivement que ce processus est un succès, puisqu'en 10 jours, plus de 3000 réfugiés sont déjà rentrés. C'est une opération que nous menons dans un temps très court. Il y avait vraiment une urgence d'aider ces réfugiés congolais à rentrer chez eux. Ils étaient dans le camp de réfugiés de Batalimo, certains depuis 2009-2010. Et ils étaient dans des zones où il y avait peut-être des conflits, des violences autour du camp. Ils voulaient rentrer, mais nous avons mis un certain temps à pouvoir organiser ce rapatriement, notamment pour des raisons sécuritaires. Et donc, enfin, nous avons pu commencer ce rapatriement. Et en 10 jours, 3000 personnes sont rentrées. Donc, je pense que jusqu'à présent, c'est une opération qui se déroule bien.
Céline Smith, merci.
Merci.
Notre nouvelle de province, c'est le déraillement mardi dernier d'un train marchandise de la Société nationale des chemins de fer du Congo. Le bilan provisoire fait état de 48 morts et de 55 blessés graves. L'accident a eu lieu près du pont Katongola, à 60 km de Kamina, dans la province du Katanga. Ce train partait de Kamina vers Mweneditu, dans le Kasaï oriental. Notre reporter Hippolyte Kalenga, de la radio communautaire du Katanga, s'est rendu sur le lieu de l'accident. Voici son reportage.
La locomotive 01-04, appelée communément Matata Pogno, mais aussi une dizaine de wagons complètement détruits, restent couchés à près de 3 mètres de rail. Juste à côté, 31 corps sont rangés les uns à côté des autres. On compte parmi les victimes 55 blessés graves couchés et certains gémissants. Selon le chef de poste d'encadrement administratif de Katongola trouvé sur le lieu, d'autres corps auraient été emportés par les membres de leur famille sur ordre du magistrat envoyé par le parquet de Kamina. Près de 4 heures après l'accident, on pouvait encore voir deux bras ou encore deux jambes de quelques personnes mortes dont les corps restent coincés dans ce qui reste de wagons. À l'intérieur des conteneurs, quelques individus réclament du secours qui n'arrive malheureusement pas. Selon certains témoins, un véhicule de la SNCC est resté stationné à 3 km du lieu de l'accident à cause de son inaccessibilité. Seulement, 4 blessés y ont été conduits sur les dos par leurs frères. Les marchandises restent éparpillées ça et là, le long du rail. Depuis le lieu de l'accident, Hippolyte Kalenga, radio communautaire du Katanga pour Radio Okapi.
Le patron de la MONUSCO, Martin Kobler, a présenté ses sincères condoléances aux familles des victimes de la tragédie ferroviaire de Kamina. Il a offert le soutien de la MONUSCO aux autorités locales et à la population dans le cadre des opérations de secours.
Magazine des Nations Unies. Portrait du jour.
Bonjour, je m'appelle Tonti Tenge Chimbombo. Je suis marié à Graziella Agathe il y a de cela 8 mois. Je fais mes études primaires au complexe scolaire de 12 septembre et ici à Kinshasa. J'ai décroché mon certificat en 1994. Ensuite, j'ai continué mes études à l'Institut technique et industrielle de la Gombe, ici Gombe. C'est là où j'ai décroché mon diplôme d'État en 2001.
Ensuite, je poursuivais encore mes études universitaires à l'Institut supérieur technique appliqué Istanbul. C'est là où j'ai fait l'électromécanique. J'ai décroché mon diplôme de graduat en 2007. Je suis chauffeur au sein des Nations Unies, précisément à Radio Kabi. Il y a de cela 3 ans maintenant. Les tâches quotidiennes, cela dépendra de chiffres qu'on va vous affecter. Ici, au sein de notre dispatch, il y a 4 chiffres, à savoir le 6-14, il y a le 14-22, il y a le 8-17, et puis il y a le 6-22. Ça veut dire que vous entrez le soir pour sortir le matin. Cette semaine qui vient de s'écouler, j'ai fait le 14-22. Ça veut dire que mon travail était de déposer les personnels des Nations Unies, de Radio Kabi précisément, dans leur maison. Donc je faisais 3 tours de 15h, 17h30 et puis de 20h30. C'est là le chiffre, le tour où je prenais mes collègues qui devaient me relayer. Avant l'agence, quand je finis mes études de graduat, on s'est cherché comme tout homme, c'est-à-dire qu'on a déposé des demandes par-ci, par-là. Par exemple, à l'OVD, j'ai déposé, malheureusement, en attendant qu'on me réponde, j'ai eu à passer dans d'autres business. Donc, après, je me suis retrouvé au sein d'une agence, le manager. Donc, c'était une agence de location de véhicules. Comme je savais conduire, et conduire, c'était ma passion. Donc, après cela encore, je me suis retrouvé dans un ONG, Leading Women of Africa, qui s'occupait de l'autonomie des femmes. Donc, comme il n'y avait pas de financement, je me suis retrouvé encore à la maison. Après la MONUSCO, j'aimerais continuer mes études de licence ici au pays ou ailleurs. Comme j'aime bien aussi le business, j'aimerais un jour devenir un grand représentant de marque Toyota. Donc créer une entreprise de vente de véhicules Toyota ici en RDC. Mes temps libre, j'aime bien faire le sport. J'aime bien faire le sport. Je fais le judo. Je suis aussi maître en judo première dame. Après le sport, qui est le judo, j'aime aussi écouter de la musique, de Wenge, des anciens succès.
Magazine des Nations Unies, question aux Nations Unies.
La question d'aujourd'hui porte sur les inondations survenues récemment au Katanga, notamment à Kalemi, à Bukama et à Mitwaba, et l'action des humanitaires en faveur des sinistrés. Suivez.
Honoré Mbenga, agence presse associée, APA. Ma question est destinée à Sylvestre Moudingaï. S'agissant de la catastrophe d'inondation au Katanga, est-ce que vous disposerez un bilan en termes de perte de vies humaines? Parce que vous n'avez pas fait allusion à cet aspect.
Ce que je peux vous dire maintenant et tout de suite, nous n'avons pas eu de rapport comme quoi il y a eu des décès. Des quartiers sont inondés, il y a des gens qui ont quitté leur quartier, qui sont allés s'installer ailleurs. Pour le cas de Bukama et de Mitwaba, je vous ai dit qu'il y a une mission qui est arrivée là-bas aujourd'hui. On avait déjà ces chiffres de 14 000 personnes sans abri à Bukama et à Mitwaba. Des missions sont arrivées là et sont là en ce moment en train de faire l'évaluation de la situation. Dès que la mission sera terminée, on pourrait vous donner exactement le nombre de personnes sinistrées. Et s'il y a eu des décès, on pourra vous le dire.
Le magazine des Nations Unies. Tout sur les faits saillants des activités des agences du système des Nations Unies en RDC. Chaque dimanche de 10h à 10h30, heure de Kinshasa, sur Radio Kapi.
Dans votre agenda de la semaine, retenez d'abord cet atelier qu'organise lundi 28 avril le PNUD sur la microfinance. Ce sera à l'hôtel Memling, ici à Kinshasa. Retenez également que ce même 28 avril, c'est la journée mondiale de la sécurité et la santé au travail. Mardi 29 avril, c'est la journée internationale de la danse et la journée mondiale de prière pour les vocations. Et enfin, jeudi 30 avril, c'est la journée mondiale des mobilités et de l'accessibilité. Fin de ce numéro du magazine des Nations Unies. Un grand merci à tous ceux qui ont été des nôtres. Ce magazine vous a été présenté par Mila Kimbuni avec l'assistance technique d'Alain Goy du côté de la régie. Nicole Ngaka a supervisé ce magazine, coordonné par Jean-Pierre Elali Coco. Honoré Missenga était au reportage. Une émission à réécouter sur notre site internet www.radiocapi.net. Nous attendons vos suggestions, vos questions ainsi que vos remarques. Faites-nous les parvenir en postant un commentaire en dessous de l'émission sur www.radiocapi.net, par notre adresse mail maguen@radiocapi.net ou par notre numéro de téléphone 082 30 76 630. 082 30 76 630. Rendez-vous la semaine prochaine. En attendant, je vous souhaite une excellente journée dominicale à tous.